Maintenant, le succès de Richard Wagner est éclatant. Il fait jouer les maîtres chanteurs de Nuremberg, qui occupent une place à part dans l'œuvre de Wagner, car il ne s'agit plus là d'un drame, mais d'une comédie musicale. C'est le récit d'un tournoi entre poètes, comme il s'en faisait autrefois, dont l'enjeu est la main d'une séduisante jeune fille. On y voit le cordonnier poète, Hans Sachs, aider le gentilhomme, Walter de Stolzing, à remporter le prix. Voici un extrait des maîtres chanteurs qui demeure un des chefs-d'œuvre du grand musicien. Ne crois surtout pas, Jacqueline, que ces maîtres chanteurs indiquent chez Wagner une sorte de retour en arrière, un abandon des idées pour lesquelles il a du temps combattre. Tout en travaillant aux opéras dont je t'ai parlé, Richard Wagner élaborait lentement une œuvre monumentale qui allait être l'œuvre maîtresse de sa vie, marquant ainsi une nouvelle étape dans l'histoire de Wagner et même dans l'histoire de la musique.
Comment cela ?
J'ai essayé de te faire comprendre comment et pourquoi Richard Wagner s'était évadé des formules classiques de l'opéra. Comment sa soif créatrice de grandes compositions dramatiques lui avait fait rejeter les thèmes historiques pour remonter aux sources légendaires. Pour l'anneau des Nibelungen, que l'on nomme plus couramment la tétralogie, il se tourne vers les légendes scandinaves.
La tétralogie ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, en musique, une tétralogie est un ensemble de quatre opéras ayant un lien entre eux, mais formant chacun un récit complet.
Comme un film à épisodes.
Mais si tu veux, comme un film à épisodes. La tétralogie de Wagner comprend l'or du Rhin, la Valkyrie, Siegfried et le crépuscule des dieux. Cet ensemble est le fruit de 20 ans de travail.
20 ans ?
Oui, 20 ans.
Mais dis-moi,
oui ?
Comment pouvait-on jouer 4 opéras à la suite ? C'est long, 4 opéras.
Oui, c'est long. Mais rassure-toi, il n'était pas question de faire passer une journée et une nuit aux spectateurs, ni de faire jouer les artistes et les musiciens 14 heures d'affilée, ce qui eût nécessité un effort humainement impossible. Non. Dans l'esprit de Richard Wagner, la tétralogie devait être représentée en 4 journées successives.
Ah bon, comme ça je comprends.
Seulement, dans les conditions d'existence qui étaient les siennes à l'époque, Wagner ne put faire ce qu'il désirait. N'oublie pas qu'il devait sa réussite à la protection du roi Louis II de Bavière. Aussi, lorsqu'il eut terminé l'Or du Rhin et la Valkyrie, c'est un peu contre son gré et uniquement pour faire plaisir à son protecteur qu'il accepta de les faire jouer séparément à 1 an d'intervalle. Mais il caressait déjà un projet grandiose, ambitieux. Avoir un théâtre uniquement voué à son œuvre, où sa tétralogie pourrait être représentée comme il entendait qu'elle le fût.
Tu sais, cette tétralogie, j'aimerais bien savoir ce qu'elle raconte.
Eh bien, je vais essayer de te la résumer. Le premier opéra, ou si tu veux, la première journée, L'Or du Rhin, en est le prologue. Il nous montre le maître des dieux, Wotan, voler l'or du Rhin malgré la résistance des Ondines, filles du fleuve. C'est avec cet or que sera forgé l'anneau, lequel assurera la toute-puissance à son détenteur. Mais Wotan est contraint de céder l'anneau magique à deux géants nommés Fasol et Fafner. Après quoi, les géants se battent entre eux, Fasolt meurt et Fafner se change en dragon pour mieux conserver son trésor. Dans la seconde partie de la tétralogie, nous retrouvons Wotan et ses filles, les neuf Valkyries. Celles-ci étaient d'une beauté surhumaine. Couvertes d'armures étincelantes, à cheval, au milieu des nuages, elles décidaient du sort des batailles et désignaient ceux qui devaient mourir. Or, Brunehild, l'aînée des Valkyries, a désobéi à son père en voulant sauver le héros, Sigmund. Wotan, pour la punir, la fait redescendre au rang de simple mortel et l'endort sur un rocher entouré de flammes. Ainsi, Brunehild ne pourra être délivrée et devenir la femme que d'un héros assez brave pour traverser le rideau de feu afin de libérer la malheureuse.
Oh, et il y en aura un qui aura ce courage?
Oui, il y en aura un, et ce sera Siegfried. Siegfried, dont le nom donne son titre au troisième opéra. Siegfried doit aller délivrer Brunehild, mais un horrible nain appelé Mime veut se servir de lui pour ravir l'anneau d'or, gage de puissance, à Fafner, lequel, tu t'en souviens, j'espère, a pris la forme d'un dragon. Siegfried s'attaque au dragon, le tue et s'empare de l'anneau. Et ce grand exploit donne à Siegfried la possibilité de comprendre le langage des oiseaux.
Oh, c'est merveilleux. Ensuite?
Eh bien, ensuite, un oiseau vient chanter à l'oreille de Siegfried. Il dévoile la perfidie du vilain nain et révèle au héros l'endroit où se trouve Brunehild. Siegfried suit l'oiseau, affronte sans peur le rideau de feu, parvient près de Brunehild et l'éveille. Ainsi se trouve réalisée la prophétie de la Valkyrie.
Quatrième partie?
La quatrième partie, c'est le crépuscule des dieux. On y voit Brunehild, trahie par Siegfried, qui a été victime d'un maléfice. Pour se venger, elle décide la mort du héros. Lorsque celui-ci a péri, Brunehild fait dresser un bûcher sur lequel est déposé le corps de Siegfried, auquel elle enlève l'anneau d'or pour le passer à son propre doigt. Puis, à cheval, elle se jette dans le bûcher enflammé. Alors le Rhin déborde, recouvre les cendres, et l'or maudit retrouve sa pureté au contact de l'eau. Maintenant, je vais te faire entendre la marche funèbre de Siegfried, veux-tu ? J'espère, Jacqueline, que ceci t'aura aidé à mieux comprendre comment Richard Wagner sut associer la grandeur des sujets qu'il imagina à la majestueuse puissance de sa musique.
Ah oui. Mais tout à l'heure, tu me disais que Richard Wagner avait envie d'avoir un théâtre, à lui tout seul. Est-ce qu'il a réussi à l'avoir ?
Oui. Encore une fois, Richard Wagner a vaincu tous les obstacles. Pour mener à bien son projet, il a d'abord acheté un terrain à Bayreuth, en Haute-Franconie. Puis il a ouvert une souscription publique. Et le théâtre fut construit. En 1876, le rêve de Richard Wagner devenait réalité.
Mais dis-moi, on n'a pas joué que la tétralogie à ce théâtre de Bayreuth ?
Non. En dehors des autres œuvres du grand musicien, on y créa quelques années plus tard un nouvel opéra, Parsifal.
Et c'est sa dernière œuvre ?
Oui. Oui, se sentant fatigué, Richard Wagner alla chercher du repos à Venise. Il y trouva le grand, l'éternel repos, en mourant subitement, le 13 février 1883. Ainsi se termina la vie de cet homme étonnant à tous les points de vue, qui reste dans l'histoire de l'art et de la musique un être sans pareil. Et tous les ans, depuis 1882, dans ce théâtre de Bayreuth qui est devenu un véritable lieu de pèlerinage, les représentations de ses œuvres apportent le témoignage de son génie incontesté.